9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est d'abord un nouvel accès de haine identitaire en Nouvelle-Zélande, pays où les musulmans ne représentent que 1% de la population. 49 fidèles qui se croyaient en paix sont tombés sous les balles d'un fanatique d'ultra-droite au nom de la lutte contre un prétendu grand remplacement dans un Occident qui serait menacé de subversion migratoire. Mon premier invité a écrit il y a 20 ans un livre dont le titre résonne encore douloureusement, « Les identités meurtrières ». Amin Malouf, le grand écrivain franco-libanais, publie « Le naufrage des civilisations » où il tente de comprendre comment tout s'est détraqué, pourquoi le Proche-Orient de son enfance, qui était un modèle de coexistence harmonieuse, est devenu l'épicentre des affrontements identitaires. Amin Malouf de l'Académie française avec nous dans une minute. Les deux mois de grand débat ont mobilisé environ 600 000 personnes, beaucoup de retraités, pratiquement aucun jeune et très peu de gilets jaunes. Bilan dressé par le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, qui a assisté à plus de 250 réunions. J'ai invité son directeur Martial Foucault. Au sommaire également l'obsession de vivre vieux, plus longtemps, la bataille millénaire pour l'allongement de la vie racontée par Roland Portiche dans « Les enfants de Mathusalem ». Et puis une voix exceptionnelle, extraordinaire, la voix du contre-ténor Philippe Jarouski sur des airs d'opéra de Cavalli.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Amin Malouf.
Bonjour.
Le naufrage des civilisations, le titre est puissant, le livre l'est tout autant. D'abord parce qu'il nous ramène à votre enfance et à une forme de paradis perdu. La civilisation qui a fait naufrage, c'est d'abord la vôtre, celle où vous avez grandi, au Liban.
Que j'appelle la civilisation du Levant.
L'univers levantin, oui.
Levantin, qui pour moi se déclinait en deux pays. Le pays de mon père, le pays de ma mère. Le pays de ma mère, c'est l'Égypte. Le pays de mon père, c'est le Liban. Et j'ai assisté à la disparition, en réalité, d'un premier paradis, juste avant ma naissance, plutôt juste après ma naissance, mais je n'ai pas de souvenir direct, mais j'ai le souvenir de tous les échos que m'a rapporté ma mère tout au long de ma vie sur l'Égypte perdue. Puis j'ai assisté à la dégradation de la situation au Liban, avec la montée de la violence, avec le modèle qui était en train de s'effilocher.
La ruine de ce modèle qui fut si prometteur me cause une tristesse dont je n'ai plus le temps de me consoler. Écrivez-vous magnifiquement. Amin Malouf, ce que vous restituez de ce Liban d'avant-guerre, ce n'est pas simplement une coexistence, ce qu'on appelle aujourd'hui une société multiculturelle. C'est, écrivez-vous, un côtoiement permanent et intime entre des populations chrétiennes ou juives imprégnées de civilisation arabe et des populations musulmanes résolument tournées vers l'Occident, sa culture, son mode de vie, ses valeurs.
C'est pour cela que ça pouvait être un modèle. Ça avait vocation à être un modèle imitable ou adaptable dans d'autres régions du monde. Et en fait, ce modèle s'est transformé en contre-modèle avec tous les échecs, toute la violence qui l'a accompagné.
Vous rembobinez le film de cette histoire proche-orientale compliquée, mais que vous rendez plutôt limpide en Égypte, quand Nasser prononce l'arrêt de mort de l'Égypte cosmopolite et libérale après la crise de Suez, en Iran avec le renversement de Mossadegh par les Américains et les Britanniques en 1953, en Égypte, encore avec l'échec de Nasser en 67, et puis de nouveau en Iran en 79, puisque vous êtes le témoin direct du retour de Khomeini et de la proclamation de la République islamique. Vous écrivez « C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde ». Vous pensez que c'est là, Amin Malouf, que c'est le foyer du désordre mondial, c'est le Proche-Orient?
C'est certainement un des foyers. Certainement un des lieux qui aurait pu diffuser des lumières et qui en réalité est devenu un problème pour le reste du monde, un problème qui s'est propagé, qui a évidemment démoli les sociétés plurielles qui existaient sur place et puis qui a diffusé dans le monde une attitude à l'égard de l'identité, une vision qui s'est révélée extrêmement vicieuse et pernicieuse. Moi, je suis l'actualité C'était un peu, c'est ma passion depuis
oui,
l'enfance.
Vous êtes fils de journaliste et journaliste vous-même, évidemment.
Absolument, et je suivais les événements du monde avec passion. Et j'ai suivi les événements de cette région du monde et d'autres régions du monde. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre que ce qui se passait autour de moi ne concernait pas uniquement ma région natale, ne concernait pas uniquement ma vie et celle de mes proches, mais que ça avait un retentissement en dehors. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai vraiment l'impression que quelque chose de pernicieux a commencé là. Et la date qui me paraît la plus significative, c'est 67, comme vous l'avez dit. 67, c'est le moment où les pays arabes, dirigés par Nasser, qui était une figure gigantesque dans le monde arabe, on ne se souvient plus aujourd'hui de ce que c'était.
Écrasante.
Écrasante
et qui n'a pas retrouvé d'équivalent depuis.
Jamais. Et qui est assommé en 67. Bon. Pour toutes sortes de raisons, le monde arabe n'arrivera jamais à surmonter ce choc de 67.
C'est-à-dire la défaite face aux
Israéliens. La défaite face à Israël. Et l'écroulement de Nasser, du rêve nasserien, de tous les espoirs qui étaient mis en lui. Et quelque chose est né à ce moment-là, une forme de désespoir qui ne va pas cesser de se confirmer, qui va prendre de toutes les allures de fanatisme divers, de violence, et qui aujourd'hui encore pose un problème partout dans le monde.
Amin Malouf, le naufrage des civilisations, on vous retrouve dans 1 minute 30.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, on continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec l'académicien Amin Malouf qui publie chez Grasset le naufrage des civilisations, livre qui, quand je l'ai ouvert il y a une semaine, m'a semblé profondément pessimiste, Amin Malouf. Et puis, à peu près toutes les nouvelles de ces derniers jours faisaient écho à ce que vous avez écrit de la dislocation de l'Europe avec les péripéties du Brexit, la condamnation en Iran aussi de l'avocate Nasrin Sotoudeh à subir 38 ans de prison et 148 coups de fouet, notamment pour incitation à la débauche, parce que Mme Sotoudeh a commis le crime de défendre des jeunes femmes dévoilées jusqu'à... Vous l'avez entendu, évidemment, la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. 49 musulmans tués par un suprémaciste d'extrême droite. Est-ce que ce sont là, est-ce qu'on peut y voir, Amin Malouf, les deux faces d'une même pièce, celle du fanatisme identitaire ou religieux?
Je pense que la montée du fanatisme se vérifie partout. Parfois, il prend une forme religieuse, parfois une forme raciale ou nationaliste, mais c'est un phénomène qui se vérifie partout. Il me semble que quelque chose s'est passé dans le monde, une sorte de tournant qui a renforcé cette tendance au fanatisme. Vous l'avez rappelé, j'ai écrit un livre il y a quelques années intitulé « Les identités meurtrières ». Je sentais la montée de ces affirmations identitaire, et j'espérais que ce serait un phénomène passager, mais en réalité pas du tout. Au contraire, il ne fait que se renforcer. Et la religion est certainement un aspect important.
La religion faux ciment, dites-vous. Le monde est rempli de faux ciment qui, telle l'appartenance religieuse, prétendent réunir les hommes alors qu'ils jouent dans la réalité le rôle inverse. Pourquoi la religion est-elle, à vos yeux, Amin Malouf, un faux ciment? Alors, dans une tendance, écrivez-vous par ailleurs aussi, au morcellement et à la tribalisation.
Je pense que les sociétés qui essayent de se fonder sur la religion, en réalité, n'arrivent pas à créer des liens solides entre les populations. Je pense, un exemple parmi d'autres qui a été emblématique, celui du Pakistan. Quand on a divisé les Indes britanniques en deux pays, un pour les musulmans, un pour les hindouistes...
C'était une séparation évidemment
religieuse. Une séparation terrible. Sur la base de la religion, on pensait que le fait de regrouper tous les musulmans dans un seul pays allait être pour eux une chance. Et en fait, une fois qu'ils ont été regroupés là, on a vu apparaître des différences entre les Punjabis et les Bengalis, qui a fini par aboutir à une guerre civile et à une séparation des deux pays. Le fait de se retrouver entre eux pour une population semble être une solution. Tout ce mythe de la pureté, de l'homogénéité.
Oui. Mais ça crée en fait de nouvelles divisions.
En réalité, ça crée des divisions à l'infini. Oui. À l'infini. Et ça crée un sentiment de mépris à l'égard des minoritaires. Quand dans un pays, il y a des groupes assez importants qui viennent d'un peu partout, qui ont des croyances différentes, un respect pour ces groupes s'impose, parce que personne ne peut les négliger. Quand ils deviennent très minoritaires, au lieu que la population majoritaire se sente beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre de son fait, au contraire, on entre dans une logique de surenchère communautariste. Et donc le Pakistan, pour reprendre cet exemple, c'est un pays où le seul fait d'être chiite ou chrétien ou hindouiste devient un problème quotidien, il y a des persécutions quotidiennes. Et la population majoritaire en souffre également. Je crois que moi je suis un peu un nostalgique des grands empires comme l'empire austro-hongrois, où des peuples différents, avec des langues différentes, des religions différentes, arriver à vivre ensemble. Et l'idée selon laquelle chacun doit se séparer des autres pour créer des États basés sur une nation ou sur une race ou sur une religion déterminée, séparer des autres, vivre entre nous, ça a toujours donné des résultats terribles. Et je pense que si j'ai une passion pour l'Europe telle qu'elle est en train de se faire, c'est parce que c'est une réinvention de l'Empire austro-hongrois.
Effectivement. En tout cas, Amin Malouf, s'il y a quelque chose que vous sauvez du naufrage, pour reprendre le titre de votre livre, c'est la langue française. Votre écriture est lumineuse et merveilleuse. J'en ai donné quelques exemples avec quelques citations. Il faut lire Le naufrage des civilisations, votre nouvel essai qui paraît chez Grasset. Merci beaucoup, Amin Malouf.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, 2 mois de grands débats scannés par le directeur du Cevipof, Martial Foucault.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Le grand débat national s'est donc achevé hier soir, du moins pour les réunions d'initiatives locales. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po, vous avez assisté et scanné un grand nombre de ces réunions. Alors votre équipe dans sa globalité et vous personnellement ?
Oui, on s'est mobilisé, nous avons été près d'une cinquantaine. Chaque semaine, nous tirions au sort sur la plateforme du Grand Débat 50 débats.
Oui.
Un peu partout, dans des zones rurales, des zones urbaines, et nous répétions l'opération chaque semaine, ce qui fait qu'à la fin des 6 semaines d'observation, on est en mesure de vous dire, on a observé environ 260 débats, totalement tirés au sort, et dans ces débats, nous avons non seulement observé, mais aussi l'accord des organisateurs, on ne les avertissait pas à l'avance, on se présentait un peu à l'improviste, d'administrer un court questionnaire auprès des participants. Et curieusement, près de 70% de tous les participants à ces débats ont accepté de remplir ce questionnaire et nous le remettre avant de quitter les lieux.
Alors, c'est très précieux, évidemment, après un mois de débat. Qui, combien, à quel endroit ? Vous pouvez nous dire d'abord si, Martial Foucault, ces participants ont été nombreux ?
Bon, tout d'abord, il est frappant de voir qu'on a une majorité d'hommes mobilisés, 55% d'hommes. Mais quand on regarde qui a pris la parole durant ces débats, les choses changent. C'est plutôt 2/3 des hommes et un tiers des femmes.
Ouais.
Ensuite, la moyenne d'âge des participants, 60 ans. Qui sont-ils ? Ce sont majoritairement des retraités, 50%, des actifs, je veux dire en fin de carrière, 40%, ce qui veut dire que nous avions aucun jeune durant ces débats. Les moins de 25 ans représentent moins de 5% des participants. Aucune minorité visible. Et d'ailleurs, c'est frappant d'observer que très peu de débats ont eu lieu dans ce qu'on appelle les quartiers, la politique quartier dit prioritaire au sens de la politique de la ville. Et puis, très peu de chômeurs. Et enfin, combien de gilets jaunes? Non, c'est vrai que c'était un élément que l'on a observé. On arrive à un chiffre de moins de 10% des gilets jaunes présents dans les débats officiels de la mission du Grand Débat National, parce que parallèlement, il y avait le vrai débat, le nom donné à l'organisation de débats uniquement pour et entre gilets jaunes.
Si on dit qu'en majorité, on a eu des retraités électeurs d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on caricature Martial Foucault ?
Alors, on caricature pas sur le premier point pour retraités. Électeurs d'Emmanuel Macron, il faut nuancer parce que moi, ce que j'observe, et là, c'est vraiment quand on entend le contenu de cette parole, je dirais qu'on a deux groupes qui s'est mobilisé, y compris parmi les personnes âgées. Et ça, on peut le localiser géographiquement. Vous avez une partie des participants qui sont venus avec l'idée de protester, de contester la politique suivie par Emmanuel Macron. Et puis, il y a un deuxième groupe qui, je crois, sont plus proches
de la sociologie
de l'électorat d'Emmanuel Macron, avec une idée assez intéressante. Ces personnes-là, et parfois elles le verbalisent pendant les débats, se disent « on a participé à un débat hier, on est encore là ce soir, on fait des propositions, mais que se passe-t-il si ces propositions ne satisfont pas les gilets jaunes ?» Et donc on voit une petite musique qui se met en place autour de la menace. Donc ces gens se sentent obligés de contribuer, de participer pour essayer de refermer cette séquence de crise des gilets jaunes. Et donc, il y a une vraie forme d'inquiétude pour cet électorat assez âgé et qui n'a pas envie que, finalement, la France soit laissée sous des scènes véhiculées d'images violentes des samedis qui se sont succédés.
Donc, globalement, ces personnes se sont mobilisées pour dire quoi ? Pour proposer collectivement ou pour se plaindre personnellement ?
Je dirais que le maître mot de chaque intervention, c'est avant tout une complainte personnelle. Et donc on a effectivement un inventaire à la Prévert, non pas de propositions, même si parfois les organisateurs ou les animateurs forçaient les participants à donner des propositions. Les personnes, pendant 2-3 minutes, expriment leur quotidien, leur souffrance, leur précarité, et ça s'arrête là. Très peu ont de propositions à formuler, mais sont mécontents à différents niveaux. Et je dirais que ce qui est très, très commun, un mécontentement très très fort vis-à-vis des élus, la demande d'exemplarité répétée lors de chaque débat.
Le ressentiment à l'égard de ce qu'on appelle la classe politique et les élus en général est très fort.
Oui, l'exemplarité, et puis souvent ça dérivait sur la question des privilèges, perçus, vrais, faux. Et puis ensuite, beaucoup de participants, même s'ils n'étaient pas forcément des soutiens déclarés des Gilets jaunes, remerciaient régulièrement les Gilets jaunes d'avoir permis que ces débats se tiennent parce que localement, souvent, ils n'avaient pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et quand même, ça a été aussi, je crois, une forme de sociabilité observée dans des petites communes où on dit souvent, dans les communes rurales, tous les gens se connaissent. Non, c'est pas vrai. Des gens ont appris à se connaître et venaient sans savoir qui était son voisin, l'instituteur de son fils ou de sa fille. Donc, il y a eu des moments quand même aussi de sociabilité assez intéressants à observer.
Est-ce que les débats ont évolué au fil des prises de parole ? Est-ce que des arguments ont fait évoluer certaines positions ? Est-ce que il y avait une fabrique de consensus ?
Alors, fabrique de consensus, définitivement non. Les animateurs ne cherchaient pas le consensus, donc ils étaient là pour consigner des prises de parole. Je n'ai vu à aucun moment des participants réagir à l'intervention précédente d'un autre participant. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un moment de démocratie délibérative. Démocratie consultative, peut-être, moi je dirais plutôt une vraie forme de démocratie, de consignation. Ont été consignées toutes ces propositions, et sans qu'un maître mot soit commun à chacun de ces débats.
Ce qui évidemment ne facilite pas la tâche de l'exécutif, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera un peu plus tard. Dernier point, Martial Foucault, vous avez évalué le nombre de personnes, de participants à ces réunions du Grand Débat ?
Ah, moi, si on projette sur les 9000 débats qui ont eu lieu, parce qu'il faut enlever tous les doublons déclarés sur la plateforme, je dirais qu'on est à peu près à 1,5% du corps électoral. Ouais. Ça veut dire pas loin de 650 000 personnes qui se sont mobilisées durant ces 2 mois en France. Et parfois, plusieurs fois pour le même débat.
Ouais, 600 000 ça n'est pas rien, mais c'est une petite fraction du corps électoral.
Oui, je pense que personne n'attendait ce chiffre. Si on avait annoncé ce chiffre il y a 2 mois, je crois que le gouvernement aurait signé tout de suite. Mais ça reste quand même beaucoup moins marginal que ce qu'on peut observer dans d'autres pays qui ont organisé ce type de grand débat.
Merci beaucoup. Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Et dans un instant, l'obsession millénaire de retarder la mort le plus longtemps possible. La bataille pour l'allongement de la vie, racontée par Roland Portiche dans Les Enfants de Mathusalem.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Suite de cette arrivée cette semaine avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Roland Portiche.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, dans cette émission, je recevais Andrei Makine, le romancier et académicien dont l'une des obsessions est la fuite du temps, la brièveté de la vie. Il m'avait dit qu'il devait me rester un peu plus de 10 000 jours à vivre. Vous y pensez, vous aussi? Vous comptez?
Non seulement j'y pense, mais je pense que c'est un des ressorts fondamentaux qui ont fait que l'humanité, les humains, depuis 100 000 ans, ont cherché à allonger leur vie. Moi, j'appelle ça dans le livre le poison de l'urgence.
Oui.
Le poison de l'urgence, c'est un peu le prix que nous avons à payer à notre cerveau qui est si sophistiqué, qui nous permet d'anticiper notre propre mort.
Oui.
Et à partir de là, ben, on vit notre vie sur le mode d'un décompte permanent.
Oui.
Voilà.
On peut anticiper sans compter comme ça quotidiennement pour savoir combien de jours
Non, mais vous savez, les philosophes ont donné à ça des noms très élégants comme le souci, l'être pour la mort, le sentiment de la finitude. En vérité, c'est un stress. Et donc, l'humanité a cherché à se débarrasser de ce stress par tous les moyens qu'elle pouvait trouver. Alors, parfois, ils étaient un peu ridicules. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu moins ridicules et qu'on approche d'un équilibre qui est peut-être plus agréable.
Alors, Roland Portiche, vous êtes philosophe de formation, producteur, réalisateur de magazines scientifiques pour la télévision, notamment avec François de Closet. Et dans Les Enfants de Mathusalem, livre qui paraît chez Stock, vous racontez la grande bataille et les grandes illusions de l'humanité pour vivre plus longtemps. Ça dure depuis toujours. Quelle est l'idée qui vous a semblé la plus dingue, l'expérience la plus farfelue?
Il y en a une qui va faire rire, en tout cas, qui est quand même extraordinaire, qui s'est passée en France avec un professeur du Collège de France, qui s'appelait Voronoff, qui lui greffait des morceaux de testicules de chimpanzés aux gens qui souhaitaient. Et alors, parmi les gens, parmi ses clients, parce que ça coûtait cher quand même, il y avait Maurice Barrès, il y avait Sacha Guitry, il y avait Marcel Achard, tous ces braves gens se baladaient dans Paris et dans les salons parisiens avec des testicules de chimpanzés. Alors, c'était pas des testicules entiers, c'était des petits bouts de testicules qu'ils greffaient dans les testicules humains, dans le scrotum humain, en pensant que, grâce à ça, ben, ils pourraient vivre plus longtemps.
Bon, en tout cas, sans avoir recours à tout cela, Jeanne Calment est parvenue à atteindre la longévité record de 122 ans, 5 mois et quelques jours. Si c'est bien elle, si c'est bien Jeanne Calment et pas Yvonne, sa fille. Alors vous l'avez rencontrée Jeanne Calment, Roland
oui.
Portiche. Vous avez croisé son regard qui d'ailleurs ne regardait plus grand-chose. Et vous pensez plutôt, vous êtes plutôt enclin à penser que c'était bien elle.
Oh, c'est bien elle. C'est évident que c'est bien elle. Pour plusieurs raisons. D'abord, les deux chercheurs qui se sont occupés d'elle vers la fin de sa vie, il y avait Jean-Marie Robin qui est un démographe, et puis il y avait Michel Allard qui est un gérontologue. Ce sont des gens tout à fait respectables. Et puis par ailleurs, c'est une question de bon sens. Le mari de Jeanne Calment avait un grand magasin à Arles, dans le centre de Arles. Je crois que c'était un magasin de tissus. Elle avait une dizaine de vendeuses qui étaient là. Donc elle voyait beaucoup de monde. Par ailleurs, c'était une grande bourgeoise qui faisait du cheval, qui fréquentait beaucoup de monde, une mondaine. Et vous pensez que du jour au lendemain, sa fille aurait pu la remplacer sans que personne ne s'en rende compte? C'est un roman policier. Rien n'est impossible. Mais enfin, c'est très peu probable. Le véritable problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est est-ce que nous avons envie, nous, de vivre jusqu'à 122 ans dans cet état?
À
quoi ça sert de vivre comme ça? Vous aussi, moi aussi, on a tous envie de vivre jusqu'à 122 ans, et pourquoi pas un peu plus encore, mais dans un état qui soit acceptable et qui nous permette de profiter un minimum de la vie et pas de survivre. Voilà.
Alors, pour le commun des mortels, Roland Portiche, votre pari, c'est qu'on pourrait pousser le curseur d'ici à la fin de ce siècle jusqu'à 150 ans, parce que votre raisonnement, c'est que tant d'efforts ne peuvent pas être récompensés au bout du compte. Hein.
Oui, c'est pas un argument des plus rationnels, mais au fond, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on ira sur Mars, même si ça ne sert à rien, parce qu'on y a trop rêvé. Et ben, on a trop rêvé à ça. Alors, cela étant, je pense qu'il y a des raisons plus raisonnables, si l'on peut dire. C'est que nous arrivons aujourd'hui à un tournant. C'est que la biologie est en train de mettre le doigt sur des ressorts tout à fait essentiels qui font qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne le vieillissement et comment on pourrait y parer. Alors je pense évidemment à tout ce qui tourne autour des recherches de David Sinclair, qui est un chercheur australien qui travaille à Harvard et qui a, à mon avis, fait des découvertes tout à fait fondamentales qui nous permettront peut-être de... Effectivement, c'est pas moi qui parle de 150 ans, c'est lui.
Oui.
C'est lui. Et non seulement c'est lui, mais figurez-vous que les recherches aujourd'hui sur les humains, les expériences sur les humains ont commencé et qu'on aura peut-être des résultats en 2022-2023. David Sinclair a travaillé sur des souris, des vieilles souris de 2 ans, c'est-à-dire vraiment des souris très, très abîmées. Et au bout de quelques semaines, il a réussi à les transformer quasiment des quasi-sourisseaux. Et je me dis que les vieilles souris d'aujourd'hui, qui est-ce ? Ben, c'est nous, les gens du baby-boom. En tout cas, je pense qu'on est proche de véritables bouleversements. Au fond, c'est une mutation anthropologique majeure qui les attend.
Et changer nos mentalités aussi. Et ça, vous le comparerez aux milliardaires, hein, à ceux qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont plus à compter au quotidien. Et donc, ça change cette façon de vivre et de voir la vie.
J'ai rencontré un milliardaire, on ne parlait pas du tout de ça. Un milliardaire, en l'occurrence, c'était Bernard Tapie. Hein. J'ai rencontré un milliardaire, mais oui, j'ai fait plusieurs émissions avec lui. Et je lui disais, mais toi qui as connu la pauvreté, et puis qui as connu aussi la richesse, qu'est-ce qui change ? Il m'a dit quelque chose de très intelligent. Il m'a dit, ce qui change, c'est qu'on ne compte plus. C'est-à-dire qu'il y a un stress qui disparaît en toi, c'est le fait que tu ne comptes plus. Eh bien, je pense qu'à partir du moment où on aura atteint 122, 123, 130 ans, je pense qu'on comptera beaucoup moins, en tout cas. Et alors qu'aujourd'hui, on compte énormément, et je pense que ce stress commencera à disparaître, avec tous les avantages qui iront avec.
Les enfants de Mathusalem, Roland Portiche, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie, ça vient de paraître chez Stock. Merci d'être venu nous en parler.
Je vous remercie.
Europe 1.
Eh bien, après l'allongement de la vie, vous aurez un instant d'éternité avec la voix, quelle voix, de Philippe Jaroussky, le contre-ténor qui revient avec des airs d'opéra de Cavalli. À tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Philippe Jaroussky.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous venez donc de poser votre voix de contre-ténor, voix extrêmement rare dont on va parler un peu plus tard, sur les mélodies d'un compositeur vénitien du XVIIe siècle, Francesco Cavalli. Certains de ses opéras sont connus, sont parvenus jusqu'à nous, d'autres pas du tout. C'est vous qui les redécouvrez, qui les tirez de l'oubli ?
Oui, c'est un compositeur qui a beaucoup écrit. On est à peu près dans les années, pour situer pour les auditeurs, 1640-1650. C'est le début de l'opéra, à peu près. Et Cavalli, on a quand même la chance d'avoir des partitions, beaucoup de partitions, soit écrites par lui-même, soit des copistes. Et j'ai passé pas mal de journées, de voyages et de nuits à lire toutes ces partitions fabuleuses.
Et c'est le privilège d'être connu, d'avoir un public qui vous suit, on peut l'entraîner vers des chemins de traverse, vers des compositeurs moins connus, comme le fait Cecilia Bartoli aussi.
Oui, parce que finalement, la particularité d'un musicien classique, c'est qu'on ne crée pas de la musique, on n'écrit pas nos propres chansons. Et donc, on doit apprendre très très jeune, je crois, quand on est un musicien classique, à être curieux. Curieux d'aller chercher justement des compositeurs moins connus, ou parfois même, ça peut nous arriver de faire des commandes d'œuvres aussi, pourquoi pas.
Alors, on va écouter un extrait d'un opéra assez rare, Statira, princesse de Perse.
Allarmi,
Philippe Jaroussky, comment on aborde cela? Vous n'avez pas de référence, pas de repère, pas d'indication de, oui, du compositeur?
Très peu d'indications du compositeur. Il faut savoir qu'à l'époque, on a en général, la plupart du temps, une ligne de basse, avec parfois quelques chiffrages, un petit peu comme dans le jazz, et puis la partie de chant. Et il faut retrouver l'instrumentarium. Là, par exemple, on a entendu un petit peu de percussion derrière, donc ça, c'est pas écrit, donc il faut tester avec la percussionniste, trouver la juste couleur. Et c'est un des travaux qui m'intéresse beaucoup, parce que du coup, ça nous donne un grand espace de liberté. On peut vraiment essayer beaucoup de choses et décider avec les musiciens ce qui nous plaît le plus.
Bon, et puis il y a de... On l'entend, il y a de l'allant, il y a de l'allégresse dans cette musique. Un aspect présent aussi dans les duos, comme celui que vous formez avec la contralto Marie-Nicole Lemieux. Philippe Jaroussky, traduisez pour les auditeurs comme vous venez de le faire.
Oui,
pendant
il y a un moment, c'est une scène très très comique, c'est ça qui fait la particularité de ce répertoire. Donc là, c'est une scène entre une nymphe et un satyre, et la nymphe n'est pas du tout emballée par cette scène de drague du satyre qui lui dit qu'il va... Il va lui faire goûter son nectar. Alors on se doute bien que le nectar, ça veut dire autre chose. Ce sens de l'humour, de l'ironie, de l'autodérision. C'est aussi, je trouve, dans une époque où on doit toujours faire un peu attention à tout ce qu'on dit, tout ça. Je trouve que c'est intéressant de se replonger dans l'histoire, même musicale, et de se dire qu'il y avait curieusement peut-être plus de liberté dans la Venise du XVIIe que maintenant.
Parlez-nous de votre voix, Philippe Jaroussky. Vous avez eu assez jeune un apprentissage musical, mais la voix chantée, c'est venu plus tard.
Oui, c'est vrai que c'est venu vers l'âge de 18 ans.
Et vous avez entendu un contre-ténor.
Et je me suis dit, je crois que je peux le faire.
Cette voix vous a troublé et vous pensiez que vous étiez capable de reproduire cette voix.
Finalement, une vocation au sens premier du terme. Et je me rappelle que quand j'ai pris mon premier cours de chant, j'ai dit à ma professeure, faites-moi confiance, je sais que je suis contre-ténor. C'est comme une petite voix intérieure qui vous dit oui.
Contre-ténor, il faut définir ce que c'est.
Voilà,
c'est quoi la différence, par exemple, avec haute-contre?
Alors, un haute-contre, c'est plutôt un ténor qui va chanter très aigu et qui va du coup alléger sa voix dans le mécanisme que moi je fais, c'est-à-dire la voix de tête. Donc là, je parle en voix de poitrine.
Ouais.
Et c'est un mécanisme qui est très curieux, hein, que les femmes ont aussi. On dit tête parce que la voix résonne plus dans les résonateurs, les sinus, tout ça. Mais on sait que les cordes vocales changent d'épaisseur. La voix reste un miracle. Je dirais même que la voix parlée reste un miracle. On ne se rend pas compte à quel point le premier contact que vous avez avec quelqu'un, il n'est pas visuel. Alors évidemment, si on fait de la radio, donc évidemment, on le sait encore plus. Mais des fois, quelqu'un ne vous revient pas parce que c'est sa voix qui ne vous revient pas.
Votre voix évolue, Philippe Jaroussky. Elle prend de l'ampleur ou elle s'abîme au fil des années?
Alors, elle change, effectivement. Quand on a 20 ans, on a une voix très flexible. On est peut-être un petit peu inconscient. Je crois que... Il y a une beauté dans les voix jeunes qui est saisissante. Là, j'ai 41 ans, je travaille toujours beaucoup ma technique et c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans l'expression du texte. Évidemment, j'ai plus de maturité. Je crois que la voix a plus d'harmonie, qu'elle est plus ronde. Parfois, peut-être un peu moins virtuose à tout prix, mais je pense qu'elle fait plus sens que quand j'étais plus jeune.
Vous êtes sorti assez peu du répertoire classique, vous n'avez pas abusé du crossover comme on dit, mais vous avez chanté du Léo Ferré d'après Verlaine.
Hein, oui, oui, oui.
Écoutez la chanson bien douce.
Ouais.
Et aussi du Mathieu Chédid. M, c'était pour l'album L'Anomalie avec la cora magnifique de Toumani Diabaté.
ça. Oui, très belle rencontre, évidemment. Mathieu Chédid est un musicien accompli qui s'intéresse à toutes les musiques, donc il vient aussi beaucoup aux concerts classiques. Et voilà, quand il a composé cette chanson, le bonheur, il me disait « J'entends ta voix en contre-chant, comme ça. » Donc voilà, c'est une autre façon d'enregistrer, parce que ouais. Mathieu a son propre studio d'enregistrement chez lui.
Une voix classique, des instrumentistes, et puis, voilà, une cora malienne.
On a un mélange de cultures
formidable.
Et puis Mathieu est quelqu'un qui sait ce qu'il veut entendre, et donc c'était très agréable de participer à ce projet. Qui est un projet aussi humaniste.
C'est des aventures qui vous donnent d'autres envies, Philippe Jarouski ?
Oui, je pense qu'il y aura d'autres incursions. Je ne m'interdis plus d'avoir des expériences un petit peu nouvelles. Donc je suis ouvert à toute proposition de rencontres avec des univers différents.
Merci beaucoup Philippe Jarouski.
Merci
Ombra My Fou, des airs d'opéra de Cavalli. C'est donc votre nouveau disque chez Erato. Et vous serez en concert le 26 mars à Montpellier, le 28 à Avignon et le 5 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci à vous.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé cette semaine. Je vous retrouve demain pour C'est arrivé demain, dimanche, donc 9h10, avec une pléiade d'invités merveilleux. Bon, je vous laisse découvrir l'identité demain matin. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
C'est Mediapolis qui arrive dans 5 minutes,
non,
avec ce matin.
Mes invités, ils sont super aussi.
Sans
des politologues comme vous les aimez. Gilles Delannoy qui vient de publier. Je vais y arriver.
Ah, bah ça, je sais pas.
Le tirage au sort.
Voilà.
C'est quand même le bon moment.
Oui.
Et Pascal Perrineau, qui est un grand prof de sciences politiques, mais qui est un des garants du grand débat.
Et l'ancien directeur du CEVIPOF. Merci Olivier Duhamel. A tout de suite pour Mediapolis. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.